Voilà, nous commençons le Daf Samer Gimel Amud Aleph. Ça commence par les dernières lignes de Daf Samer Bet Amud Bet. En bas de la page, on a le sujet dans la Mishnah de Adag Shamim, Ad Sheyug Shamim. Qu'on ait dit Adag Shamim ou qu'on ait dit Ad Sheyug Shamim, dans un cas ou dans l'autre, ça donne Ad Sheyug Shamim. Déjà, ça s'entend jusqu'au début des pluies. Jusqu'au début de la saison des pluies. Qu'est-ce que représente le début de la saison des pluies? C'est Revia Shnia, on a déjà dit qu'il y avait trois Revia au début de la saison des pluies. Au début de l'automne, quand on fait le semis, on attend les pluies. Et on a trois dates propices pour lesquelles on attend ces fameuses pluies pour commencer la saison. On va voir ce calendrier. Plus loin, il y aura le 3, il y aura le 7 et il y aura le 17, par exemple, d'après Rabbi Meir. Trois dates, très bien. Alors, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière, c'est celle du milieu. C'est ça le début des pluies. Pourquoi c'est ça qu'on entend quand on dit Gshamim? Alors, une explication, c'est parce que Gshamim, c'est pluriel, donc il faut déjà que ce soit la deuxième. Ou parce que quand il y a la deuxième, c'est là où on remarque sur le sol devient boueux. À la première, le sol était tellement sec de tout l'été, puisqu'on parle bien sûr en Eretz Israël, l'été il ne pleut pas. Et donc, si les premières pluies ne sont pas ressenties, le sol il est tellement assoiffé qu'il absorbe tout. Donc on ressent les pluies qu'à la deuxième. C'est ça qu'on entend et c'est ça qui marque le début de la saison des pluies. Maintenant, pourquoi ici c'est Ad Sheyehe et Ad sont à la même enseigne? Pourtant, on avait dit Ad Apessar, c'est jusqu'à que Pessar arrive. Hachéye Pessar, c'est jusqu'à que Pessar soit passé. Mais pour ce qui est des pluies, c'est différent. On avait vu un klal que tout ce qui est Enzmano Kavua, alors que tu dises Hachéyagia, que tu dises pardon Ad ou Hachéyehe, ça donnera toujours Hachéyagia. C'est le klal qu'on a vu dans Samech Aleph Amoudbet. Très bien. Maintenant, Marabizira Machloket. On a une machloket qu'on a vu dans la Mishnah. Je rappelle, Rabbi Shimon ben Gamliel, il disait qu'on n'a pas besoin de la pluie effective. En fait, c'est le repère de la date officielle de Revia Shnia qui compte. Tandis que Tanakama disait, faut que, oui, la saison des pluies soit marquée par la venue de la pluie. Laquelle? Revia Shnia. Donc, ils sont d'accord que c'est Revia Shnia, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait la pluie effective? Ou bien hein, la date officielle de ces pluies. Quelle était l'intention du Noder? C'est la Machloket. Maravizera. Machloket. Alors maintenant, on va mieux comprendre cette Machloket. Parce que Rabbi Zera, il vient et il restreint la Machloket. En disant, Machloket de Amaradak Shamim. Aval Amaradak Geshem. Adzmach Geshamim Kamar. S'il a dit Adag Shamim, c'est là où Tanakama n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Mais s'il a dit Adag Shem au singulier, alors tout le monde est d'accord, même Rahamim sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar, que c'est l'intention, la date de Revia Shnia, et pas nécessairement les plus effectives. Pourquoi? On ne comprend rien. Le Ran est là pour nous expliquer. Le Ran nous dit que les pluies, c'est quelque chose de très imprévisible. Pour rien. C'est vrai, il y a des dates officielles auxquelles on attend, c'est le moment propice, tout ce que tu veux, mais on n'en sait rien. Or, un homme n'a pas tendance à faire un vœu en référence à quelque chose d'imprévisible. Donc, Rachamim sont d'accord avec l'optique de Rabbi Shimon ben Elazar, qui consiste à dire que si tu te réfères aux pluies, c'est en fait la date officielle des pluies. Il y a Revia Rishona qui est attendu pour telle date, Revia Shnia pour telle date, etc. En fait, c'est la date de Revia Shnia qui compte. C'était certainement ton intention et c'est ça qu'on entend dans ce Neder. Sauf que si jamais il a dit Geshamim pluriel, pourquoi t'as dit Geshamim pluriel? C'était inutile. Langage parlé à l'époque, c'était courant de dire Geshem. Ada Geshem, pourquoi tu dis Ada Geshamim? C'est pour en rajouter, pour insister que les pluies effectives. Voilà l'approche de Tanakama. Et Rashbag, il pense que non. Même là, on dira que c'est comme avant, c'est-à-dire les gens ne rentrent pas dans cette subtilité. Geshem, Kshamim, ça revient en même. On entend L'échéance officielle des pluies, même sans qu'il y ait la pluie, parce que c'est trop imprévisible. Voilà pour l'explication rapidement. Mais tu veux en object. Ezoizmana, et donc on est passé au Samer Gimel Amud Alef tout en haut. Ezoizmana chez Revia. C'est quoi le moment de Revia? Je rappelle que Revia, c'est le nom de ses premières pluies. Comme ça qu'on les désigne. Mais en fait, c'est parce que ça se rabat au sol qu'on appelle ça Revia, dit le Ran. Alors, Abechira, la précoce, c'est-à-dire la première, c'est Bishlosha, le 3, Cheshvan. Benonit, Beshiva, le 7. Afila, la tardive, la troisième, Besrim Veshlosha, ou plutôt dans une version corrigée, Beshiva Asar. C'est ce qu'on trouve dans Maseret Ta'anit, d'ailleurs. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Daomer, Beshiva, Beshiva Asar, ou Besrim Veshlosha. 7, 17, 23. Rabbi Yossi Omer, Beshiva Asar, ou Besrim Veshlosha, ou Beros Chodesh Kislev. Chodesh Kislev, plutôt Rosh Chodesh Kislev. Bien. Donc on a chacun avec son calendrier qui établit les dates propices pour les trois Revia au début de la saison. C'est lorsqu'on a semé et on attend ces pluies. Donc trois dates que chacun a posées à sa manière. Pourquoi ils ont posé comme ça les dates chacun? Il faut savoir comprendre le fond de la machloket. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Maintenant, Verena Yarabi aussi Omer. Et Rabbi aussi disait, effectivement, En Yechidim Itani Natchiagi Arosh Chodesh Kislev. Les Yechidim, comme il est mentionné dans Maseret Ta'anim, que les Yechidim, ça veut dire les Talmidei Chachamim, doivent jeûner en premier. S'il manque des pluies en Eret Israël, alors il est question d'enclencher des séries de Ta'aniot. Mais la première série de jeûnes ne concerne que les Yechidim, les Chachamim. Et donc, c'est à partir de quand qu'on s'inquiète et qu'il est nécessaire de prier. C'est dès que on voit le retard des pluies quand les trois réviotes n'ont pas eu lieu. Il n'y a pas eu de pluie ni à la 1, ni à la 2, ni à la 3. La pluie n'est pas au rendez-vous. On s'alarme un petit peu, mais pas tout, pas trop. On exige des yéchidim de jeûner. Et après, plus tard, si la pluie n'arrive pas, malgré les jeûnes, alors on enclenchera d'autres séries de jeûnes et ça concernera à ce moment-là l'ensemble de la communauté. C'est un sujet qui est largement développé là-bas dans Maseret Ta'anit. À présent, Rabbi Yossi nous dit que qu'est-ce qu'on appelle retard de pluie? Ben, Rosh Chodesh Kislev. Parce que si Rosh Chodesh Kislev n'est pas encore là, alors t'as raté que les deux premières Revia, c'est pas encore inquiétant. Quand t'as raté les trois premières Revia, dont celle de Rosh Chodesh Kislev, puisque d'après lui, la troisième se cale à Rosh Chodesh Kislev, alors on se demande des questions où la pluie n'arrive pas. Allez, on enclenche le Ta'ani de Yechidim. Point. Donc ça va de pair. Et on comprend aisément que, d'après les autres chitotes, Rabbi Meir, Rabbi Yuda, quand est-ce que les Yechidim vont se sentir le devoir de jeûner? C'est pas besoin d'attendre Rosh Chodesh qui se lève. Selon Rabbi Meir, déjà le 17, c'est la troisième Revia. Selon Rabbi Yuda, le 23, Cheshvan, c'est la troisième Revia. On n'a pas besoin d'attendre Rosh Chodesh qui se lève. Que Rabbi aussi, c'est ce que la Braïta dit, Vechen, c'est Rabbi aussi, les chitato. Lui qui a calé Revia Shlishit, la fila, au Rosh Chodesh qui se lève, alors il dit dans le même ordre d'idée, on ne lance les Taniot que à partir de Rosh Chodesh qui se lève si la pluie n'était pas là. Ensuite, vers Marinanala, nous avons dit sur ce texte de la Braïta dans Maseret Ta'anit, Bish la Marevia Rishona, Mishael. Encore qu'on nous spécifie quand est-ce que c'est le moment de Revia Rishona. C'est pour qu'on sache quand est-ce qu'on est Shoel et Tagshamim. Il y a Azkarat Geshamim. Qu'on mentionne la pluie dans la Tfila, c'est depuis Shmini Atzeret. On commence à dire Mashiva Ruach Morida Geshem. Mais on ne demande pas encore la pluie. Parce que Shelat Geshamim, c'est dans Barech Aleinu. C'est là-bas on dit Veten Talumator Livracha. Dans la bracha numéro 2 de la Mida, c'est Gvurot Hashem. On ne fait que mentionner l'éloge de Hashem par rapport à ces Gvurot, les prouesses de la nature qui sont les prouesses d'Hashem. Là-bas, on mentionne Gvurot Keshaviv, effectivement, mais on ne sollicite pas encore la pluie que plus tard dans l'année. C'est lorsqu'on commencera à dire Veten Tal Umatar Livracha. Alors, à quel moment on commence? Eh bien, la Braïta nous a donné Revia Rishona. C'était justement pour qu'on sache quand est-ce qu'on commence à solliciter la pluie dans la Tfila. Et ça parle bien sûr d'Eretz Israël. En Chutz Laaretz, c'est différent, comme elle dit la Gemara là-bas. C'est ce que nous, on fait. On commence qu'en décembre à dire Barech Aleinu. Mais en Eretz Israël, on commence déjà bien plus tôt. Dès que c'est le Zman de Revia Rishona, voilà, on attend la pluie, c'est le moment propice. On en a besoin pour le semis de la nouvelle année. Et donc, chacun selon sa chita, quelle est la date à laquelle on espère cette pluie. Évidemment, on est bien d'accord que les Tanaïm ne sont pas ni des météorologues, ni en train de nous dire, voilà, telle date, c'est le moment où ça doit venir. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? La nature, on ne la maîtrise pas. On ne peut pas dire sur toutes les années, éternellement, cette date, c'est la date où ça doit venir. Non, c'est la date qui est le plus, on va dire, la pluie est attendue, on en a besoin par rapport aux cultures, etc. Et donc, à cette date, oui, elle est a priori censée venir, on en a besoin. On a fixé cette date officielle comme date de Shelat Geshamim. Mais on n'est pas en train de donner un avis scientifique pour dire à quand arrivent les premières pluies. C'est pas ça la marloquette. C'est la marloquette à quand on commence de demander Shelat Geshamim. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la Braïta, les trois Shitot. Très bien. Maintenant, pourquoi on m'a parlé de Revia Afila, tardive, c'est-à-dire la troisième pluie? Pourquoi, hein? Ben justement, les Tanot, pour savoir quand est-ce qu'il faut jeûner, comme on l'a dit précédemment, Rabbi aussi, c'est qu'à Rosh Chodesh Kislev, qu'on enclenche le Tanit de Yechidim, et Rabbi Meir, Rabbi Yuda, chacun selon sa date respective. Et la Shelia, les mailles. Mais la deuxième Revia, à quoi ça sert de la définir? Comme je dis, on n'est pas là à donner un avis de météorologie ou une présomption que c'est à telle date qu'il doit tomber de la pluie. C'est par rapport à nous que c'est un repère dans le temps qui représente quelque chose par rapport à quelle loi? C'est la question. La Rishona, c'est pour dire, voilà, à cette date, on commence à demander. La Shlichit, c'est pour dire, à cette date, s'il n'y a pas eu, on commence à jeûner. Mais la deuxième, pourquoi on l'a établie? Qu'est-ce qu'elle représente? Les mailles. C'est ce qu'on s'était demandé là-bas dans Maseret Ta'anit. Amar Rabbi Zera, il avait répondu, Rabbi Zera, les noders. C'est par rapport à celui qui a fait un neder. Comme on a vu dans la Mishnah, que si quelqu'un il a dit Kodam Yain Sheni Toem Ad Hagshamim, c'est jusqu'à quand que le vœu est en vigueur, jusqu'au début des pluies. C'est quoi le début? C'est Revia Sheniya. C'est ça l'intention. Eh bien, c'est pourquoi dans la Braïta, les trois Tanaïm chacun s'emploie à définir c'est quand la date de Revia Sheniya. Vamrinan. Et on avait dit, en étudiant ce passage là-bas, « Kemal azla hadetania » comme qui va cet enseignement d'une braïta. Rabbi Shimon ben Gamliel omer, « Kshamim shiardu, shivayamim, zeacharze » les pluies qui sont tombées 7 jours d'affilée, « Atamone ba'en revia rishona veshnia » tu peux, ça compte pour, tu comptes en elle, ça veut dire ça compte pour revia 1 plus revia 2. Bien que c'était des pluies continues, ça compte pour 1 et 2. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, quand on avait lu ce passage, la Gemara dans Tanit avait dit que ce passage, eh ben, c'est Keman, c'est que Rabbi Yossi. Ça colle avec le calendrier de Rabbi Yossi. Ça colle pas avec le calendrier de Rabbi Meir. Parce que selon Rabbi Meir, il n'y a pas 2 Revia sur 7 jours. Il y a ou sur 5 jours, ou sur 11 jours. Il y a entre le 3 et le 7, ça donne 5 jours. Ou entre le 7 et le 17, c'est encore plus que 7. Il n'y a pas un intervalle entre 2 Revia qui correspond à 7 jours. Dans le calendrier de Rabbi Yehuda, de même, on a entre le 7 et le 17, c'est déjà plus que 7. Et on a entre le 17 et le 23. Et donc, non, entre le Rabbi Yehuda, oui, entre le 17 et le 23. Et donc, c'est plus que 7. C'est 8 jours. Non, attendez. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pourquoi ce serait pas bon? Faut voir pourquoi ce serait pas bon. On a dit là-bas, ça colle avec Rabbi aussi précisément. Rabbi aussi, on a... Oui. Ah d'accord. C'est très bien. Ça pourrait coller, mais ça colle pas. Pourquoi? Parce qu'on a précisé, il y a ici la 1 et la 2, pas la 2 et la 3. Donc selon Rabbi Yehuda, oui, c'est l'intervalle qu'on a entre la 2 et la 3. Mais ici, c'est écrit entre la 1 et la 2. Donc Rabban Shimon ben Gamliel, c'est exactement, ça correspond au calendrier de Rabbi Yossi. Que s'il y a eu des pluies, 7 jours d'affilée, ça peut englober les deux rivières, Rishona et Shenia. Parce que c'est quoi l'intervalle qui est entre la 1 et la 2 selon Rabbi Yossi? C'est du 17 à 23. Après, la dernière sera Rosh Chodesh qui se lève. Ok, donc de 1 à la 2, on a 7 jours. Et le chidouche, c'est même si la pluie était continue. Ça s'appelle 2. Ah, et donc, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon ben Gamliel? Laura nous dit, moi, Rabbi Shimon ben Gamliel, j'ai bien dit que j'ai pas besoin des pluies effectives. Puisqu'on parle en matière de Nédarim, je rappelle que le deuxième, c'est déterminant pour les Nédarim. Et donc, Rabbi Shimon ben Gamliel, pour sa part, il n'a pas besoin des pluies effectives. Mais il est en train de signifier au Chachamim, pour vous, que vous avez besoin de la pluie effective pour que le vœu soit à l'arrêt, s'arrête. Sachez que même si la pluie continue de la 1 à la 2, ça compte pour la deuxième. Ne dites pas que c'est que la première, puisque ça ne s'est pas arrêté. Non, 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 ça compte pour les deux. Et donc, on en est arrivé à la deuxième révia, et donc le vœu est révolu. Voilà ce que veut dire Rabbi Shimon ben Gamliel, tel que le Ran explique. Donc, la Gemara avait dit que c'est ce modèle-là que Rabbi Shimon ben Gamliel présente, c'est conforme au principe de Rabbi Yossi. Son intention, c'est ce que je viens de dire au nom du Ran. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a la machloket, Rabbi Shimon ben Gamliel et Chachamim. Est-ce qu'on a besoin de la pluie effective ou non? Pourtant, ici, on parle d'un vœu comment? C'est pas précisé. Mais on présume, dit le Ran, que c'était Adag Geshem. C'était pas la formule Adag Shamim. Pourquoi? Mais c'est le langage le plus courant et le langage commun de l'époque. On disait plutôt Adag Geshem. Certainement, c'était la formule de son vœu. Et tu vois pas qu'il y a machloket, même si on a dit Adag Geshem. Et pourtant, Rabbi Zera nous a dit quoi? Que Adag Geshem, tout le monde est d'accord. Même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Gamliel. Que le repère de la pluie étant quelque chose de tellement imprévisible, naturellement, on n'a pas tendance à prendre ça comme référence pour la limite du vœu. On fait des vœux par rapport à une référence qui est envisageable, qu'on arrive à identifier. Quelque chose d'imprévisible, non, pas trop. Sauf s'il a dit Gshamim. Mais s'il a dit Geshem, il n'y a pas de machloket. Et ben là, tu vois pas qu'on parle de la Geshem, Pashtout, c'est pas écrit, mais Pashtout, puisque c'est le langage commun le plus courant. Et quand même, on présente ici, dans cette braïta, entre les lignes, la machloket, elle apparaît. Puisque qu'est-ce que Rashbag a voulu dire au Chachamim? Encore une fois, le Ran a expliqué. Rashbag voulait leur dire, pour moi, si ça a commencé à pleuvoir, du 17 au 23, ça s'appelle deux rivières. Donc pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Il y a ici deux rivières. Le Neder est révolu. Moi, je n'ai même pas besoin de pluie. Mais pour vous, soyez d'accord. C'est ça le discours de Rashbag. Ça veut dire qu'ils ont leur machloket. Même dans Adag Geshem, est-ce qu'il faut la pluie effective ou non? Objection contre Rabbi Zera. Réponse à Oud et Amar Adag Shamim. Non, cette braïta, elle parle qu'il a dit Adag Shamim. C'est pas précisé, mais établi dans le cas où c'est cohérent. Le cas où c'est cohérent de retrouver la machloket, c'est quand il a dit Adag Shamim. S'il avait dit Adag Geshem, Rabbi Zera te maintient, il n'y aura pas de machloket. Donc ça veut dire resitue la braïta dans le contexte approprié. La braïta ne s'est pas elle-même déterminée est-ce que le neder est comme ceci ou comme cela. Le neder est sous-jacent, il est en allusion dans la braïta. Et bien resitue dans le contexte approprié à savoir Adakshamim. Mais Adageshem, je maintiens que ce n'est pas Machloket. Il n'y a pas d'objection contre Abizera. Mishnah. Konamiyin Shenitoem Shana Zo ou bien Hashana. Il ne faut pas dire les Shana. L'année en cours, ou cette année, j'ai fait un vœu de plus boire de vin cette année. Netambra Shana, l'année Eme ou Beret. On a rajouté un 13e mois. C'est le dernier mois qu'on double. Le mois de Hadar, c'est le dernier. Il a été rajouté un mois. Asurba ou Beibura. C'est Assur. À ce moment-là, c'est Assur avec le 13e mois. Par contre, s'il avait dit « je m'interdis pour une année, c'est une année de temps. Alors là, le temps, c'est une année habituelle. Une année habituelle, c'est 12 mois. Comme ça, c'est envisagé ici dans le RAN. Je dis envisagé parce que ce n'est pas tout à fait évident. Ça se pourrait que quand il dit une année, alors il est normalement tenu de commencer ce jeûne tout de suite. Est-ce qu'il peut le décaler? Non, il fait balter acher. Et donc, il doit le faire tout de suite. Et plus que ça, il se pourrait que s'il n'a pas enclenché tout de suite son vœu d'un an, il ne puisse pas le faire plus tard, et ça s'appelle qu'il a transgressé le vœu. Parce que le neder est khal immédiatement. Quand tu as dit une année, ça ne veut pas dire quand je veux, je choisis. Quelle année dans le calendrier, non? Ça veut dire l'année qui est là. L'année tout de suite. D'après ce point de vue, eh ben, c'est l'intention cette année en cours. Eh ben, l'année en cours, elle est mauvaise. Ça comprendra le 13e mois. Mais ça, ce n'est pas évident. C'est une tendance qui est écrite dans le RAN. Mais il y avait une tendance aussi différente précédemment dans le RAN de dire que comme il pourrait décaler une autre année, or une autre année, ce n'est pas une année Mouberet, donc même s'il a choisi de le faire là, maintenant, sans retarder, sans report, eh ben, l'année actuelle, elle est Mouberet, eh ben, il n'a pas besoin de tenir les 13 mois, 12 mois suffiront. De même que plus tard, ce serait 12, maintenant aussi. Ça veut dire que cette expression, une année de temps, ce n'est pas forcément l'année actuelle, parce que je ne suis pas astreint, c'est vrai, il y a balté arrière que de retarder. Mais ça aurait pu être acquitté en faisant plus tard, dans 3 ans. Et dans 3 ans, c'est pas mot Beret. Et donc, c'est pour ça que ça n'induit pas nécessairement une année de 13 mois. Voilà 2 tzadim dans le RAN, quand il dira Shana Achat. Mais s'il a dit les Shana, pardon, Shanazu Hashana, alors ça s'appelle l'année en cours. Et clairement, il est astreint même pendant le Chodesh Haïbour. Ensuite, Adrosh Adar, s'il a dit jusqu'au début du mois de Adar, et que cette année il y avait 2 Adar, quelle est l'intention? Ben, c'est Adrosh Adar Arishon, jusqu'au début du premier Adar. Et s'il a dit Adsof Adar jusqu'à la fin de Adar, ça donnera Adsof Adar Arishon. Stam Adar, dans le langage des Bnei Adam, c'est Adar Arishon, c'est pas Adar Sheni. S'il voulait Adar Sheni, il aurait précisé. Donc quand tu dis Sof Adar, c'est Sof Adar Rishon. C'est une lecture ici dans la Mishnah, il y a une autre version contraire. Il faut voir, nous on va travailler d'après notre version. Alors, la Gemara nous dit Alma, Stama de Adar de Kamar Rishonu. Quand un homme il dit Adar Bistam sans précision, ça renvoie à Adar Rishon, c'est ce qu'on voit bien dans la Mishnah. Lema Matnitin Rabbi Udaï, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah correspond à Rabbi Yuda et non Rabbi Meir de Tania? Puisqu'on trouve dans une braïta la Machloket, Adar Rishon, si on doit écrire un shtar, qu'il faut dater, et qu'on est en Adar Rishon, il conviendra d'écrire Adar Rishon. On est le 25, Adar Rishon. Adar Sheni, si on est Adar Sheni, Kotev Adar Stam. Tu dis 25 Adar, sans précision. 25 Adar, et comme l'année Meuberet, ça veut dire Adar Sheni. Divrei Rabbi Meir. Ça veut dire que Stam Adar, mais la Shon Bene Adam, on entend le Adar Sheni. Rabbi Daomer, Adar Arishon, si on est Adar Arishon, c'est là où on est Kotev Stam. Tu mets 25 Adar sans plus. Mais Adar Sheni, quand c'est Adar Sheni, Kotev Tinyan, c'est là où tu dois écrire le deuxième. Tinyan veut dire Sheni, en araméen. Donc, Stam Adar, pour Rabbi Yehuda, c'est Adar Rishon. Et quand tu parles du Sheni, tu le précises. Et donc, notre Mishnah, a priori, correspond à Rabbi Yehuda. Et souvent, et d'habitude, c'est Stam Mishnah qui est Rabbi Meir. C'est ce qui étonne. Marabaya filut et Marabbi Meir. Tu peux même comprendre la Mishnah comme Rabbi Meir. Hade yada de miyabra shata. Hade lo yada. Ça dépend si l'homme savait que l'année mouberet ou non. Dans la Braïta, on parle de quelqu'un qui est conscient que l'année mouberet. Donc, quand il dit Adar Stam, c'est Adar Sheni. Et quand il dit il veut parler de Adar Rishon, il faut le spécifier. Mais quand quelqu'un parle du Hadar sans savoir que cette année est Meouberet, il n'a pas pu penser à un Hadar Sheni, puisque dans sa tête, il n'y en aura pas cette année. Alors forcément, il a parlé de Hadar Rishon. C'est pourquoi, même d'après Rabbi Meir, ce que la Mishnah a dit se tient. Voilà. Ve'atania, et voilà la confirmation dans une Braïta. Ce Ve'atania, il est Benichuta. Comment on trouve la confirmation? Ad Rosh Chodesh Adar Arishon. S'il a fait un vœu en disant « Je m'astreins quelque chose jusqu'à Rosh Chodesh Adar », le vœu tient jusqu'à Rosh Chodesh Adar 1. Et Maïta Shana Meuberet, et si l'année était Meuberet, Ad Rosh Chodesh Adar Sheni. Il y a ici une anomalie dans la Braïta. La Gemara fait une déduction. Miklal de Rechala Vimuberet Askinan. Ça s'entend de la Seifa que la Recha parlait pas d'une année Mouberet, mais c'est un non-sens. Même la Recha, forcément, elle parlait de Shana Mouberet, puisque on a bien parlé de Adar Rishon. Il a dit Ad Rosh Chodesh Adar, ça tire jusque Rosh Chodesh Adar Rishon. Si je te parle de Rosh Chodesh Adar Rishon, c'est que c'est bien une année Mouberet. Donc que veut dire dans la Seifa, c'est plus Mouberet que la Recha? Les deux, ça parle de Mouberet. Et donc, dans la Sefer, me dit que quand c'est Shalom Uberet, Stam Adar, c'est Adar Sheni, c'est donc Rabbi Meir. Et dans la Rishon, me dit que Rosh Chodesh Adar, Bistam, c'est Rishon. C'est contradiction. Mais la Rishon aussi parle forcément et nécessairement d'une année Uberet, puisqu'on te dit Rishon. Shmamina de là, j'entends exactement le chilou que nous avons envisagé, Bedat Rabbi Meir. Hadepshitale de miyabrashata, hadeloyada. Là, il savait. Il était conscient, il savait avec évidence l'année Mouberet. Et donc, comme il est conscient que l'année Mouberet, quand il dit Stamadar, c'est Adar Rishon. Non, pardon, Stamadar, c'est Adar Sheni. Ça, c'est la Seifa. C'est Shitat Rabbi Meir. Et la Recha, c'est pas que c'était pas Shana Mouberet, ça l'était. Mais dans sa tête, ça n'en était pas une année Mouberet. L'Oyada. Et donc, là, tu dis que même les Rabbi Meir, ayant dit Adar, c'est Adar Rishon. Donc, ça confirme la réponse que notre Mishnah peut très bien s'accorder avec Rabbi Meir, pour peu qu'il ne savait pas que c'était Mouberet. Ça donnera sa Bémet. Parce que c'est que comme ça qu'on peut comprendre le décalage entre la Recha, la Sefa et la Braïta, basé sur ce Chilouk qu'on vient d'envisager. Donc, ça confirme automatiquement le Chilouk et la réponse est bonne. Notre Mishnah peut aller comme Rabbi Meir. Nouvelle Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Konam Yain Sheni Toem, Hatcheye Apesar. D'habitude, quand on dit Hatcheye, ça veut dire Hatcheye Tse, jusqu'à que soit révolue toute la fête de Pessah. C'est ce qu'on avait vu plus haut. Rabbi Yehuda, il vient et nous dit que si on a fait ce vœu de ne pas consommer le vin Hatcheye Apesar, eh bien, l'onit Kabenze, son intention n'était autre, et la Adlel Apesar, jusqu'à la veille de Pessah. Jusqu'au moment du Seder. Jusqu'au moment où tout le monde a l'habitude de boire le vin, les costauds du Seder de Pessah. Il ne voulait pas inclure la fête de Pessah dans le Neder, certainement pas. Et donc quand il dit jusqu'à Pessah, tout de suite on fait tilt. Mais oui, c'est le moment où tout le monde tient à boire du vin pour la mitzvah. Alors lui, il n'a pas voulu l'interdire. Il a fait son Neder jusqu'à Pessah, jusqu'à l'entrée, la veille de Pessah. Bien que Hatcheye, ça pourrait vouloir dire plutôt jusqu'à que soit passée la fête de Pessah. Mais nous, on a une umdana selon le contexte du moment, tout le monde sait très bien que c'est important, c'est une mitzvah de boire le vin, certainement qu'il n'a pas voulu inclure ça dans le vœu. C'est la démarche de Rabbi Yehuda. Est-ce que la Mishnah plus haute est d'accord avec ça ou non? A priori, non. On se rappelle que dans la Mishnah, c'était écrit dans le au début du perek précédent, c'était le cas de Konam Yain Shani Toem,
Hayom, et nous assur et la cheter char. S'il a dit Shabbat zo, c'est assur kol Shabbat, etc. En tout cas, le neder, c'était konam yain shalitoem. Et la Mishnah poursuit, et si c'était avec Pessah, il a dit Ada Pessah, assur ache yagia. Et s'il a dit acheye, jusqu'à que ce soit Pessah, jusqu'à que c'est été Pessah, c'est assur ache yetse, jusqu'à que la fête soit terminée. Et donc voilà une stam Mishnah contraire à Rabbi Yehuda. Et apparemment, c'est comme ça que le Ramban comprend que c'est machloket tanaïm ce sujet. Ça veut dire, dans l'expression, ça s'entend plutôt jusqu'à que soit révolue la fête. Mais Rabbi Yehuda dit, c'est vrai, mais je m'en tiens aussi au contexte. Le contexte me dit que cet homme n'a pas voulu interdire le vin à un moment où tout le monde tient à le boire pour la mitzvah. Et donc je devine que quand il a dit Hachéa Pessah, ça voulait dire jusqu'à qu'arrive Pessah, mais pas que la fête rentre. La fête rentrée, aussitôt je peux boire. D'autres Rishonim considèrent que ce n'est pas une machloquette. Là-bas, la Mishnah n'avait pas voulu vraiment et forcément parler du Neder de Yain, c'est vrai, par rapport à la Recha, mais dans la Seifa, on n'est pas obligé de dire que ça parle du vin. Même si la Mishnah n'a pas corrigé la nature du vœu, quand on parle de Pessah. Par exemple, on veut bien entendre que s'il a dit « je fais un éder de ne pas manger du navet », alors il a dit « Ada Pessah », c'est jusqu'à que Yagi a Pessah. « Atcheyehe Pessah », ça voudra dire « Atcheyetse Pessah ». Tiens, voilà, le Tana aurait dû parler de ça. Pourquoi il me parle du vin? Eh bien non, c'est l'avdavka, le vin. Le vin, il l'a dit pour la Recha, mais pour la Sefa, pas forcément. Il ne voulait pas s'allonger. Et c'était surtout l'histoire de la nuance entre « Atcheyehe » ou « At tout court ». Mais possiblement, le Tanakama de la Mishnah là-bas, il serait d'accord avec Rabbi Yehuda ici. C'est Machloket Rishonim, si ce sujet est Machloket Tanaïm, ou bien tout le monde est d'accord avec Rabbi Yehuda. Ensuite, Amar Konam Basar, c'est Rabbi Yehuda qui poursuit son exposé avec encore un exemple similaire. Il a fait un vœu de s'interdire la consommation de viande, chez Nitoem, Ad Sheya Tsom, jusqu'à que soit le Tsom. Eno Asur et la Tsom, c'est le Tsom de Yom Kippour. Or, les gens ont l'habitude de manger de la viande, Erev Yom Kippour. Donc, Eno Asur et la Lele Tsom, il ne s'est interdit que jusqu'à la veille du jeûne, c'est-à-dire un peu avant, bien sûr, avant l'entrée du Tsom, que quand on peut encore manger, c'est ce qu'on dira, Soudat Amav Seket, on peut encore manger pour avoir de la viande à sa table, puisqu'il n'a pas voulu inclure ce moment. Son intention, c'est de s'interdire la viande jusqu'au moment où tout le monde tient à la manger. Et Erev Yom Kippour, avant le Tzom. Et donc, ce moment n'a pas été inclus dans le vœu. C'est la même idée que pour le vin du Seder. Rabbi aussi, c'est le fils de Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi aussi tout court, c'est celui qu'on appelle Rabbi aussi bar Rabbi Yehuda. Lui aussi va dans le même sens. Konam shum shani toem. Il a fait un vœu de ne pas goûter de shum, de l'ail. Achete Shabbat. Jusqu'à que soit Shabbat. Mais normalement, achete, ça veut dire jusqu'à que soit terminé. Et malgré tout, Eno Astur il a adlele Shabbat. Il est interdit jusqu'à l'entrée du Shabbat. Pourquoi? Pour la même raison. Le contexte est éloquent. Même s'il ne l'a pas dit clairement. Mais ça s'entend à travers le contexte. Son intention n'était autre qu'un moment, jusqu'au moment où tout le monde mange l'ail, parce que c'est une takana de Ezra de manger de l'ail vendredi soir, comme on voit dans Maseret Baba Kama et on l'avait vu plus haut. Alors, lui aussi, son intention, c'était ça. Bien que ce n'est pas autant une obligation comme le vin, ça reste une takana, et donc voilà qu'il y aurait la même idée que ce que Rabbi Yehuda a dit. Le vœu, on devine qu'il n'inclut pas le moment important où tout le monde tient à manger l'ail. Point. Autre sujet maintenant. Haomer le chavero konam shani nenelecha imenat ba venotel imenata ba. Si toi tu viens pas, venotel le bincha kur echa tchel chitim. Je suis interdit, Bekonam, Beneder, de ne pas profiter de toi si toi tu ne veux pas accepter pour ton fils ceci et cela. Telle quantité de blé, telle quantité de vin. Je veux te faire un cadeau. C'est plus raffiné de dire à ton fils, mais en fait c'est à toi. Et je veux te gratifier, te donner. Et lui, il voulait pas. Alors il lui dit, tu sais quoi? Moi, je profite pas de toi si tu veux pas recevoir. Harezei yachol leafer et nidro, il peut effacer le vœu. L'autre peut lui dire, ton vœu est nul. C'est pas vraiment une atarat nedarim. Ça n'existe pas une atarat nedarim de l'autre. Atarat nedarim, c'est chez le chacham. Donc ça veut dire qu'on n'a pas vraiment besoin de atarat nedarim du moment que l'autre va dire. Il peut lui faire atarat nedarim chez l'alpi chacham. Que veut dire? Il a qu'à lui dire, klum amarta el amipne kvodi, zeu kvodi. Toi, t'as dit ça pour mon kavod. Alors c'est ça mon kavod. C'est-à-dire, tu voulais me faire honneur en me donnant un cadeau. Allez, pour mon fils. Mais c'est moi qui assume mon fils, donc c'est à moi que tu fais le cadeau. Et c'est vrai que si j'étais dans le besoin, ce serait un honneur que tu me fais de me venir en aide. Et tu vois que je vais refuser, alors tu fais un éder de ne pas profiter de moi si moi je refuse. Eh bien, tu dois savoir que pour moi, c'est comme si. Moi, c'est mieux encore de ne pas recevoir. Mon honneur, c'est de ne pas recevoir. Que les gens aient vu que tu voulais me faire un cadeau, c'est mignon, c'est du kavod, et que je l'ai décliné ce cadeau, c'est encore plus de kavod pour moi. Que je n'ai pas eu recours à ce cadeau, je pouvais m'en passer. Et donc, tu voulais me faire honneur. Tu as eu mieux que ça, tu m'as fait un grand honneur de m'avoir fait cette gentillesse et ce geste, cette attention. Et que j'ai décliné, c'est pas moins un honneur, pour moi c'est encore plus. Et donc, t'as eu ton compte. Tu voulais me faire honneur? Voilà, tu m'as fait honneur. Et donc le vœu est nul. Tu n'as pas besoin de te priver, tu n'es pas astreint par ce vœu. Pas besoin de Shelat Racham. C'est lui qui va lui enlever son vœu. Pas il va lui enlever le vœu au sens de Atarat Nedarim. Il va lui révéler que le vœu est nul. Hein? Il va lui dire, voilà, moi c'est un plus grand kavod pour moi de ne pas recevoir que de recevoir. Je ne suis pas dans le manque. D'accord? Et donc, c'est pourquoi le vœu est nul. Situation similaire. Ah, alors ici, il y a le Rand qui nous ramène un Yerushalmi qui est un peu plus... Il fait allusion à un Yerushalmi qui présente ici Machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Bien que dans la Mishnah, on n'a pas mentionné Rabbi Meir comme opposant de Chachamim, sauf plus tard dans la suite de la Mishnah, mais dans le Yerushalmi, c'est affirmé que déjà ici, Rabbi Meir s'oppose. Et Rabbi Meir, il pense que ça ne marche pas. Le vœu est contraignant, même si l'autre va lui dire, mais pour moi, c'est encore plus un kavod, que j'ai pas eu besoin de recevoir ton cadeau. C'est gentil, tu m'as fait une attention, j'ai décliné, c'est très beau, tu m'as fait... Et encore mieux. Non, c'est pas encore mieux. Pourquoi? Parce que peut-être c'est le donateur qui voulait se faire honneur à lui-même. En donnant, il voulait passer pour quelqu'un de généreux, de bien intentionné. Et donc, là, il n'a pas eu son compte, puisque finalement, on ne lui a pas donné la chance de donner. On lui a décliné son offre. Alors, il n'aura pas eu son compte. Donc, le vœu est contraignant. C'est ce que dit Rabbi Meir. Sauf que le Yerushalmi précise, la machloket, c'est lorsqu'on ne sait pas définir exactement l'intention du donateur. Mais si on connaît l'intention, alors il n'y a pas de machloket. Si son intention c'était son kavod personnel, ben il n'a pas eu son compte, le neder est confirmé. Mais si son intention c'était vraiment de faire honneur à l'autre, et l'autre lui dit, mais moi j'ai eu mieux que de l'honneur. Tu m'as fait la gentillesse de me proposer, et moi j'ai décliné parce que je n'en ai pas besoin. Donc c'est encore plus un kavod, c'est un double kavod que d'avoir manifesté de l'attention pour moi et que j'ai eu à décliner parce que je n'en ai pas besoin. C'est encore plus du kavod, donc j'ai eu mon compte. Tu as eu ton compte. Tu as eu ce que tu obtenais, tu vous attendais. Et donc le neder n'est pas validé. Quand on sait définir l'intention du donateur, il n'y a pas de chela, c'est ou comme ceci ou comme cela d'après tout le monde. Quand est-ce qu'ils ont discuté Rabbi Meir Chachamim? C'est quand on ne connaît pas. Quand ce n'est pas défini et affiché clairement si c'était l'intention pour son propre kavod ou pour le kavod de l'autre. Alors là, c'est machloket. Est-ce que Bistam, on présume que c'est le kavod personnel qu'il recherche ou c'est le kavod du bénéficiaire qui recherche. Ça, c'est une précision dans les Yerushalmi. Nouveau sujet dans la Mishnah, du même genre. V'chel omer le chavero konam she'at ne'enit li, ou plutôt konam she'at ta ne'enit li. Je fais un neder que tu ne peux pas profiter de moi. Imenat ba, ou plutôt imenata ba, si toi tu ne viens pas, venoten ibni kur shel chitin v'shte chaviot shel yayin. Si tu ne viens pas donner à mon fils, ceci et cela, telle quantité de blé, telle quantité de vin. Donc là, la situation, elle est inversée. C'est lui qui veut recevoir pour son fils. Son fils, il est samouch al shulchano, c'est le père qui l'assume. Il a du mal, il n'a pas assez de moyens. Et il dit à quelqu'un qui a les moyens, si tu viens pas en aide pour donner à mon fils, finalement, ça veut dire me faire gagner à moi, puisque c'est moi qui aurais payé pour mon fils. Si tu viens pas me venir en aide maintenant, eh bien, sache que tu profiteras plus de moi par un éder, tu es interdit. Alors, il y a ici Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir Omer Asur Hacheiten. Le neder, il est validé. Et donc, s'il veut éviter d'être restreint par ce vœu, il lui faudra donner. Tu ne donnes pas? Eh bien, t'es moudar anam imeni. Chachamim Amrim. Avze yakol et affaire et nidro. Là, encore une fois, il peut lui effacer le vœu chez le Alpi Chacham sans faire le détour chez le Chacham. Donc, ça ne veut pas dire littéralement Afarat Nedarim, mais ça veut dire qu'il peut lui révéler que son neder est nul. Comment ? Le Yomarlo, il lui suffira de dire « Ariani keilunit kabalti » Pour moi, c'est comme si j'avais reçu. C'est vrai, j'ai exigé de toi, donne-moi ceci, cela pour mon fils. Sous-entendu, j'en ai besoin, je suis en difficulté. Et sinon, temudar anamimeni, c'est grillé. Mais si après, il lui dit « Tu sais quoi, après coup, c'est comme si j'ai reçu. Ça s'appelle comme s'il a reçu. Et donc le neder n'est pas jugé. Parce que, disent les Rishonim, on pourrait très bien recevoir et rendre. C'est pas parce que je dois recevoir que je peux pas te le rendre. Et si tu me l'avais donné, je te l'avais rendu, le vœu, il est caduque le vœu. Voilà, tu m'as donné. Alors pourquoi je viens de me compliquer? Je peux te dire directement. Tu sais quoi, c'est comme si je l'ai reçu. Je te compte ça. Je suis reconnaissant comme si je l'ai reçu. Et alors, automatiquement, le vœu est nul. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Meir pense que non. Au moment où il a fait ce vœu, il ne pensait pas à ça. Il pensait littéralement, tu me donnes, tu donnes pour mon fils. Oui, non, non. Tu donnes, alors il n'y a pas de vœu. Tu donnes pas, il y a le vœu. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Dernier point. Ayam et Sarev Bo Lasset. Alors, ces deux passages de la Mishnah, on l'avait vu dans la Gemara, dans la Sugya de Nidrei Zirouzin. Nidrei Zirouzin, c'est quand quelqu'un il fait un vœu pour convaincre, comme dans le cadre d'une démarche commerciale, on marchande, on négocie le prix, 4 ou 2, et au final, on finit à 3. Alors, chacun, il a fait son éder. Moi, je m'interdis de profiter de l'argent si jamais je mets plus que ce prix. Si jamais tu ne me payes pas un 4. Il a dit, moi, je m'interdis de profiter de l'objet acheté si jamais je paye plus que tel prix, etc. Au final, ils sont entendus pour 3. Les nidarim sont caduques. C'est nidrei zirouzin, c'est juste pour convaincre l'autre. C'est pour la forme. Mais au fond, ils savaient très bien qu'ils allaient s'entendre sur un compromis. C'est toujours comme ça dans une démarche commerciale. Donc ces nidrei zirouzin, ils sont nuls d'avance. Là, c'est un niveau intermédiaire. Il y a 3 niveaux. Il y a Zirouzin, tu sais d'avance que c'est nul. Il y a le cas où il faut chez la Tracham. C'est un neder effectif. Et il y a les neders comme dans notre Mishnah où il faut que la personne en face nous dise quelque chose pour réaliser que le neder est nul. Par exemple, il me dit Kelunit Kabalti. Alors, c'est pas besoin d'un Farat Nedarim chez le Tracham. Mais tant qu'il ne m'a pas dit Kelunit Kabalti, imagine qu'il est dans l'attente, il est dans le besoin. Son fils est en difficulté. Lui, il attend qu'on lui donne. Eh ben, et c'est pas Kelunit Kabalti d'emblée. Il faut qu'il dise, pour moi, c'est comme si. Alors, le vœu est nul. Alors, la Gemara faisait la part des choses. Est-ce que celui qui disait là-bas, Nidrei Zirouzin, pas uniquement dans le domaine commercial, c'était Rabbi Shimon ben Elazar, il avait donné un exemple de Nidrei Zirouzin pour l'invitation, précisément. Ça se rapproche de notre sujet. Quelqu'un a dit, tu viens pas chez moi, là, au repas, il fait un repas de fête, tu viens pas à l'invitation, alors je suis interdit de profiter de toi. Tu me fais pas l'honneur de venir, je suis grillé, c'est moi qui est konam, moi je m'interdis. C'est pas je t'interdis, si tu... Alors, c'est pas exactement la même situation qu'ici. Et là, bah, on disait que c'est nidre zirouzin. D'emblée, ça saute, on n'a pas besoin qu'ils me disent quoi que ce soit. C'est d'emblée zirouzin. Pourquoi ici, ce ne serait pas d'emblée zirouzin? Alors, la Gemara, elle faisait le décalage entre ça et ça. Il y a là-bas, à chaque fois, un petit décalage, une petite mise au point qu'il faut revoir dans la Gemara d'Afrev Dalet. Je ne veux pas trop m'attarder, mais en tout cas, c'est là-bas où on fait cette mise au point. Le Ran, là-bas, nous dit que c'est le père qui va dire Keilunit Kabalti, c'est pas le fils, parce que le fils, il était à charge du père. Et quand le père, il dit donne à mon fils, ça veut dire en fait, mets dans mon portefeuille à moi, aide-moi à subvenir aux besoins de mon fils. Mais c'est à moi que tu donnes. C'est une façon peut-être moins gênante de solliciter, mais au fond, c'était lui qui sollicite. Et donc, quand il va dire Keilunit Kabalti, ça joue. Mais si le fils, il dit Keilunit Kabalti, ça joue rien. D'accord ? Sauf si le fils, il est indépendant, et il n'est pas à charge du père. Là, c'est au fils de dire « Kelunit Kabalti » pour faire sauter le vœu. Ça, c'est une précision dans le Ran, dans Afrav Talet. Dernier point de la Mishnah. « Ayam esarevbo laset bat aroto » Quelqu'un était en train d'insister pour qu'un autre veuille bien épouser bat aroto. Sa fille qui est la nièce de cet homme. Il y a une mitzvah d'épouser sa nièce, la fille de sa sœur. Ok, c'est recommandé, ce mitzvah, il faut voir après médicalement qu'est-ce qu'on en pense, mais là-bas dans la Gemara, Yeva Mot, c'est mentionné comme une mitzvah. Et on est en train dans la famille de lui faire des pressions, allez, marie-toi avec ta nièce, et on insiste. Et lui, pour y mettre fin et couper court, il a sorti un vœu, il a dit « Konam sheinenit leolam » Je fais un éder qu'elle ne pourra jamais profiter de moi. À jamais. Ou bien encore, Hamegaresh et Ishto, il divorce sa femme. Et au moment de divorcer, Omer dit Konam ishi enenit li leolam. Je fais un éder qu'elle profitera jamais de moi, ça. Alors, Arielu mutarot li anotlo, elles peuvent profiter de lui. Imaginons un jour, elles ont besoin de tzedaka et lui, il a les moyens. On pourra leur donner la tzedaka. À elles profitent de lui. Et il y avait un vœu. Shelon it kavenzela le shumishut. Faudrait situer le vœu dans son contexte. C'est un peu le sujet de la Mishnah. Comme avec Rabbi Yehuda plus haut. Nous entendons bien que l'objet du vœu, c'était d'interdire ces femmes de profiter de lui. Derechichut, c'est par une vie de mariage. Mais pas de ne pas recevoir aucun service de cet homme-là. Si un jour ça se présente, il n'y a aucune contre-indication. Ce n'était pas l'objet du vœu. Parce que c'était tout axé sur mariage. On lui fait des pressions. Marie-toi avec elle. Il veut couper court à l'idée du mariage, c'est tout. Il n'y a aucune raison de se griller avec elle et d'interdire tout profit qui puisse jamais rendre le moins de service. Un jour, il veut rendre service à sa nièce, lui donner de l'argent de poche, il n'y a pas de problème. Ce sera moutard. La même chose avec son ex-femme qu'il a divorcée. Il a beau avoir fait ce vœu, ça voulait dire « Je la remarierai plus jamais. » C'est tout. Mais maintenant, si une occasion se présente de rendre service, ce ne sera pas sourd. Idem. « Ayam esarev bechavero shiochal etzlo » Quelqu'un faisait des pressions, insistait pour qu'il veuille bien manger chez lui. Il l'invite et il réitère l'invitation. Tu viens chez moi, hein? J'insiste. Amar konam le betecha shani nirtnas. L'autre, pour couper court, qu'on arrête d'insister, il fait un vœu. Je suis interdit par un vœu de ne pas rentrer chez toi, de ne pas boire. Tipat sonen shani toem, ne pas goûter une goutte d'eau. Mutar li kanes le beto velishtot menu tsonen. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il pourra rentrer chez lui sous son toit, bien que Drissa Dregel s'assure pour un Moudarna. Et Tsonen aussi pourra boire. On a bien compris l'objet du vœu. C'était une manière pour lui de couper court à une invitation pour un festin, pour un repas de fête ou je ne sais quoi. Alors ça, d'accord. Mais juste faire le détour et passer chez lui un petit moment ou prendre un café, c'était pas le sujet. Et donc, bien que dans son expression, ça s'entend plutôt, ben, si je prends ça à la lettre, il ne peut plus rentrer chez lui. Il ne peut plus prendre un verre d'eau, un café, rien. Eh bien, on sait comprendre par le contexte que ce n'était pas du tout l'intention. Il n'avait aucune raison d'interdire totalement tout profit. Donc, c'était certainement une manière de dire, je fais le vœu de ne pas pouvoir partager ce repas auquel tu m'invites. Ça oui, le grand repas auquel tu m'invites, c'est ça sur quoi j'ai fait mon vœu. Mais les petites anaos de venir ou prendre le café, ça j'ai pas inclus, c'est moutard. Adranalar konam yayin, adranalar konam yayin, adranalar konam yayin. Rabbi Eliezer Omer, Patrine Adam et Kavala Viv. Ce sera un tout autre sujet à partir de la...